effet, Jésus, ici, se retrouve dans une situation où ceux qui l'ont vu grandir ne croient pas que ce soit possible que ce soit lui qui annonce ce qu'il annonce et qui fasse ce qu'il fasse. Bref, ils ne croient pas que Jésus est Jésus. Alors, je voudrais faire un petit retour en arrière parce que on a un passage parallèle un peu plus tôt dans Marc qui est en relation avec cet épisode. Dans Marc 3, à la fin du chapitre, versets 31 à 35, on lit que Jésus était en train donc de parler aux foules, et puis voilà que sa mère et ses frères arrivent. Ils se tiennent dehors et il envoie appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. » Et il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et il dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » C'est quand même étonnant ce que dit Jésus là. Qui peut décider qui est son frère, sa sœur, sa mère? Jésus, lui, le peut. Être frère, sœur, cousin de Jésus, dans ce passage, ne fait pas de ces personnes le frère, la sœur ou la mère de Jésus. Ce qui veut dire que Jésus, ici, dans ce passage, nous donne un principe assez fou. C'est que pour faire partie de sa famille, le critère n'est pas naturel, il n'est pas biologique, il n'est pas héréditaire, mais il est fonctionnel. C'est-à-dire que, et le passage le dit bien ici, celui qui peut faire partie de sa famille, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et donc, pas plus que les frères et les sœurs de Jésus, je ne peux décider être enfant de Dieu. Je peux le dire, je suis enfant de Dieu, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est Jésus qui le décide. Personne ne peut décider tout seul de devenir un enfant de Dieu, c'est Jésus qui décide de cela. Et ce qui est fort dans cette idée, c'est qu'il y a des implications importantes. Et on le voit très bien avec ces versets de 1 Jean 4, 9 et 10. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est Dieu qui nous a aimés, c'est Dieu qui a fait le premier pas, c'est Dieu qui a envoyé Christ pour mourir à la croix. Pour nous, c'est Dieu qui fait de nous ses enfants. Et ce n'est pas de nous-mêmes que nous pouvons devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par héritage, ce n'est pas parce que mes parents sont chrétiens que je deviens enfant de Dieu, mais c'est parce que Jésus m'attire à lui et que j'accepte son cadeau extraordinaire. Dans ce chapitre 6, Jésus est confronté à un autre sujet concernant sa famille et sa communauté proche. Cette fois-ci, ce n'est pas juste ses parents, ses frères, ses sœurs qui viennent vers lui, mais c'est la communauté de ceux qui l'ont vu grandir et vivre parmi eux. Et dans le texte d'ailleurs, c'est amusant de voir qu'il y a un double étonnement. D'un côté, étonnement de ceux qui sont interpellés par ce Jésus qu'ils voient agir comme il n'avait jamais agi, comme il l'avait jamais vu agir. Et en face, Jésus lui-même, verset 6, qui s'étonne de leur incrédulité. Et j'aimerais vous parler de cet étonnement. Parce que cet étonnement est résumé par une phrase qui aujourd'hui est toujours présente dans la langue française, « Nul n'est prophète en son pays. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. » Alors, peut-être que l'expression que Marcel a employée tout à l'heure était moins connue, « vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà ». Mais par contre, cette expression « nul n'est prophète en son pays », vous l'avez sûrement entendue. Il suffit de taper ces mots dans le répertoire d'une librairie pour voir qu'il y a plusieurs livres qui portent ce titre. Alors d'ailleurs, le premier livre à gauche est celui d'un philosophe qui s'appelle Denis Moreau, qui est un philosophe des religions. et qui a écrit un livre en 2019 dans lequel il commente une quarantaine d'expressions tirées des évangiles, comme par exemple « semer la zizanie », « rendre à César ce qui est à César », « garder le meilleur pour la fin », ou encore « vieux comme Hérode », etc. Et il donne au titre de son livre « Nul n'est prophète en son pays » comme expression importante à ses yeux. D'ailleurs, cette expression, elle était aussi reprise par Gilles Kepel dans son livre qui vient de paraître en octobre, « Prophète en son pays ». Gilles Kepel, c'est un politologue qui est spécialiste du monde musulman et de l'islam. Et Gilles Kepel, qui a enseigné à l'École normale supérieure, a notamment, dans ce livre, il traite notamment de l'islam et de manière nuancée en abordant le sujet sensible de l'islamisme et du salafisme. Alors si ça ne vous parle pas totalement, c'est que vous n'étiez pas là à la formation du MENA, le 13-14 octobre, et qui nous a été bien résumé lors du culte qui a suivi. Pourquoi il dit qu'il n'est pas prophète en son pays? Enfin, pourquoi il a donné ce titre, prophète en son pays? Parce qu'en fait, c'est un des seuls chercheurs universitaires français qui travaille réellement sur cette question de l'islam et son implication dans la société, et ce qui lui a valu quelques difficultés dans le monde universitaire. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression « nul n'est prophète en son pays » Bah, tout simplement parce que c'est l'idée de dire qu'il est plus difficile d'être apprécié chez soi que lorsqu'on va à l'étranger. Ou encore, les talents de quelqu'un ne sont jamais assez reconnus par les siens, puisqu'ils considèrent que cela va de soi. Ou bien, on a parfois moins de succès dans son pays qu'ailleurs. Il y a différentes manières de comprendre cette phrase. Mais ici, Jésus s'étonne de l'incrédulité de ces gens. Qu'est-ce qui étonne, à l'inverse, les personnes qui voient Jésus? Qu'est-ce qui empêche ces personnes de recevoir le message de Jésus? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont du mal à accueillir ce prophète? Bah, tout simplement, l'idée que Jésus soit Jésus, c'est-à-dire que Jésus soit un prophète. Pourquoi? Parce que leur Jésus, celui qu'ils ont vu grandir, celui qu'ils ont vu travailler comme artisan charpentier, ce Jésus, voilà que tout d'un coup, c'est le Jésus dont tout le monde parle. C'est le Jésus qui fait des miracles. C'est le Jésus qui a des foules qui le suivent. C'est le Jésus qui a formé des disciples et qui sont prêts à tout pour lui. Et pour ces gens qui l'ont côtoyé depuis tout petit, c'est choquant. Mais en même temps, attendez, entre nous, là, c'est complètement compréhensible. Est-ce qu'on n'aurait pas... Imaginez, dans les années... Vous êtes dans les années... Ok, imaginez-vous, pour ceux qui n'étaient pas nés, vous êtes dans les années 80, dans les années 80. Ok? Et vous avez une raquette de tennis qui est cassée, vous voulez la faire raccorder. Vous allez à un magasin de sport à Paris, et voilà que celui qui vous raccorde la raquette, il a des cheveux longs, un visage assez fin, et c'est quelqu'un qui, en fait, n'est pas seulement fort en raquette, mais il est aussi fort en guitare. Il s'appelle Jean-Jacques Goldman. Je ne pense pas que beaucoup de gens, à l'époque, aient reconnu Jean-Jacques Goldman, qui, dans sa semaine, entre ses concerts, travaillait dans un magasin de sport, parce qu'il était lui-même tennisman, et que voilà, c'était ce qu'il avait fait comme boulot avant de devenir chanteur. Les gens ici, qui ont vu Jésus grandir, ils sont choqués de voir Jésus prendre cette ampleur-là. Pourquoi? Parce que Jésus avait un métier tout à fait normal. Il venait d'une famille normale. Ici, on nous parle de... Il nous dit qu'il avait une mère, qu'il avait des frères, des sœurs, etc. Et voilà que tout d'un coup, il découvre quelqu'un qui a une sagesse hors norme et qui y fait des miracles hors norme. Et donc, naturellement, que ce qu'ils connaissaient de Jésus avant qu'il devienne Jésus soit un obstacle pour eux. Alors même qu'ils sont dans l'attente et l'expectative d'un Messie, comment peuvent-ils s'imaginer que ce Messie, c'est ce petit garçon qu'ils ont vu grandir à côté d'eux? Ils ne l'attendent pas ainsi. Ils attendraient quelque chose d'un peu plus spectaculaire et puis d'un petit peu plus clair. En fait, ce texte a un message pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, que l'on soit croyant ou que l'on ne soit pas croyant. Parce que le message est simple. Ce texte nous invite à considérer Jésus non pas simplement comme l'orateur plein de sagesse, auteur de miracles, mais à considérer aussi Jésus comme l'homme, enfant, qui a grandi et qui est devenu artisan charpentier. Autrement dit, ce texte nous invite à considérer Jésus en tant que pleinement homme et pleinement Dieu. Alors pourquoi ça peut nous parler comme non-croyants ? Si c'est votre cas ce matin, peut-être que vous admirez la sagesse de Jésus, son message de paix et son engagement à défendre les pauvres et les opprimés. D'ailleurs, si vous faites partie du comité du prix Nobel, vous trouvez que c'est injuste qu'il ne l'ait encore jamais reçu. Et en 2024, ça va changer. Mais en même temps, ce côté-là du personnage vous va bien parce que le côté spirituel, les actions miraculeuses de Jésus, bon, pour vous, ça peut relever de fables. Jésus est donc au rang des grands philosophes, des grands personnages qui ont marqué l'histoire, au même titre que Bouddha, Gandhi, le Dalai Lama, etc. Et si on veut chercher des points communs entre Jésus et ces grands personnages, on peut les trouver assez facilement. Mais en fait, il y a une question que l'on peut poser qui distingue Jésus de tous ces autres personnages. La question est la suivante. Quelle est la valeur et l'impact de la vie de chacun de ces personnages? Lequel de ces grands hommes est allé jusqu'à se sacrifier pour ceux qu'il aimait et jusqu'à donner sa vie pour mourir et sauver ceux auxquels il tenait? La mort duquel de ces grands hommes a eu un impact supérieur à sa vie même sur Terre? Alors oui, on peut considérer que Gandhi est mort pour sa cause, assassiné en 1947 par un extrémiste hindou qui ne supportait pas l'attitude tolérante de Gandhi par rapport aux musulmans. Certes, mais sauf que la mort de Gandhi n'a sauvé personne et n'a pas empêché des massacres entre communautés dans les mois et les années qui ont suivi l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. L'impact de la mort à la croix de Jésus, elle, va bien au-delà de n'importe quelle autre mort. C'est un impact qui est cosmique. Pourquoi cosmique ? Parce que par sa mort à la croix, Christ nous justifie de nos péchés. Il y en a même qui se réveille la nuit pour y penser. Nous libère de l'angoisse, du déshonneur. Nous convainc de son amour par son exemple et nous libère de la puissance de la mort. Je reviendrai là-dessus plus précisément après. Ce texte peut aussi nous parler comme croyants, parce que je peux aimer le caractère spirituel de Jésus. Je peux aimer son modèle d'empathie, de service, son message de paix, d'espérance, ses miracles et son autorité, tout en négligeant la partie basiquement humaine de l'homme Jésus, qui est né dans une étable, qui a une maman, qui a des frères, des sœurs, un métier, bref, qui a une vie normale. Or, cette partie très terre-à-terre de la vie de Jésus est en fait indispensable pour être au bénéfice du message et de la puissance de ce que Christ a fait sur terre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si Jésus n'avait pas eu une vie normale en tant qu'être humain sur terre, eh bien là, l'efficacité de sa mort à la croix n'aurait pas été possible. Christ, autrement dit, si je voulais refaire l'histoire, si j'avais été Dieu, j'aurais pu très bien dire, Christ arrive sur la terre une semaine avant Pâques, et par des discours puissants, tout le monde le trouve génial, et puis le jour de Pâques, il meurt juste avant, puis le jour de Pâques, il ressuscite, fin de l'histoire, tout le monde est sauvé, et on passe à la suite. Pourquoi le christianisme n'est pas né comme ça ? Parce que c'était dans le plan de Dieu que Christ s'incarne dans une peau humaine et vive les étapes normales de l'enfance jusqu'à l'âge adulte pour plusieurs raisons. Et j'aimerais vous parler de ces raisons. Mais pour appuyer sur ce que je viens de dire, je vais vous donner l'exemple de Thomas Pesquet. Vous savez, cet astronaute qui a eu l'occasion d'aller dans l'espace, habiter quelque temps dans la Station Spatiale Internationale. C'est un personnage qui est extrêmement médiatisé et qui est intéressant à écouter parce qu'il a vécu une expérience géniale. Mais pourquoi on l'écoute ? On l'écoute parce qu'il a mis les pieds dans une fusée et parce qu'il est allé habiter dans l'espace et parce qu'il est revenu. Si jamais il n'était pas allé dans l'espace, personne ne saurait qu'il est Thomas Pesquet. Et puis s'il n'était pas revenu, on ne l'interviewerait plus non plus. Les deux sont complètement indissociables. Mais c'est la même chose avec Christ. Le fait qu'il soit pleinement homme et qu'il soit pleinement Dieu est la condition nécessaire pour que son sacrifice à la croix ait de la valeur et soit totalement suffisant pour nous sauver. Que nous démontre Jésus par sa pleine humanité ? Première chose, il nous démontre qu'il est le nouvel Adam qui nous justifie. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Qu'est-ce qu'on nous dit ici là ? Bon, c'est facile à comprendre, hein, puisque vous connaissez vous savez, on a tous une pomme d'Adam. Le morceau du fruit là, qui est resté coincé dans notre gorge et qui est là pour nous rappeler que si on est pécheur, il y a une origine. La réalité, c'est que comme le péché est entré dans le monde par Adam, de même, il fallait aussi un homme qui vienne accomplir quelque chose d'extraordinaire pour que nous puissions être sauvés. Et c'est ce que Christ a fait, le nouvel Adam qui nous justifie. Christ est aussi le nouveau serviteur qui montre l'exemple. Philippiens 2, 6, 8, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, nous dit ce passage. Il est ce nouveau serviteur qui nous montre l'exemple, qui a lui-même incarné et vécu les valeurs du royaume, serviteur, simple homme, humble, obéissant. Troisième réponse à sa pleine humanité, c'est qu'il est le nouveau libérateur qui a vaincu la mort et qui a vaincu le diable. Hébreux 2, 14. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux qui, que la peur de la mort, retenaient leur vie durant dans l'esclavage. Je résume, l'humanité de Jésus est indispensable parce qu'il nous prouve ainsi qu'il est le nouvel Adam, le nouveau serviteur, le nouveau libérateur. Cette réalité de la pleine humanité de Jésus et de sa pleine divinité a un impact dans notre vie. Et cet impact, c'est qu'elle rend possible une transformation de notre vie. Et c'est ce dont parle notre deuxième texte, versets 6 à 13. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer deux à deux. Et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre deux chemises. Puis il leur dit, Si quelque part, vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorre seront traités moins sévèrement que cette ville-là. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Voilà que Jésus, qui a commencé son ministère, transmet aussi ce fardeau d'aller annoncer un message extraordinaire autour de lui à ses 12 disciples. C'est quoi le message qu'il leur demande d'apporter ? Le message est simple. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Exactement comme Jésus l'a fait lorsqu'il a, par exemple, fait son sermon sur la montagne. Qu'est-ce qu'il dit dans le sermon sur la montagne ? Il dit « Cherchez d'abord le royaume des dieux, de Dieu et sa justice. Soyez saints comme je suis saint. » Et ici, les disciples sont envoyés avec des conditions matérielles particulières. Qu'est-ce qu'ils doivent prendre avec eux ? Rien. Hormis le message qu'ils ont à apporter. Parce que c'est la seule chose qui est pertinente dans leur voyage, c'est leur message. Les disciples marchent dans les traces de leur maître et ils sont eux-mêmes tellement touchés par le message de Jésus qu'ils veulent le transmettre à leur tour. Et ce message, c'est qu'il faut changer d'attitude. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce message est aussi toujours valable pour nous aujourd'hui et c'est ce qui rend l'idée d'être chrétien valable. Si être chrétien, c'est simplement un titre, quelque chose d'hérité, de familial, de traditionnel, ça n'a pas de sens. Le fait d'appartenir à Christ devrait être quelque chose qui est transformateur pour nos vies. Les disciples savent très bien que Christ a vécu comme un vrai homme, mais ils savent aussi que ça y est, il est dans la phase de sa vie où il est venu pour s'occuper des affaires de son Père. Certes, Christ a changé pour ceux qui l'ont vu grandir, d'enfant à adulte, d'apprenti à artisan, de rabbin, de charpentier, maître à poncer, à rabbin, maître à poncer. Il est désormais maître d'une équipe de disciples, orateurs qualifiés, et il a un message profond à transmettre. Mais face à des personnes qui ne veulent pas ce message, eh bien, il ne peut pas accomplir beaucoup de miracles, il ne peut pas le transmettre parce qu'elles ne sont pas à l'écoute. Et il invite donc ses disciples à aller plus loin, vers d'autres personnes qui seraient mieux disposées à entendre ce message. Et c'est quelque part tragique de se dire que ces personnes ont côtoyé Jésus, ont côtoyé le Messie sans se rendre compte qu'il était là, parce qu'ils se sont attachés aux apparences et à ce qu'ils savaient de Jésus, sans se laisser dépasser, sortir de leur zone de confort, de la manière de comprendre les choses, et touchés par son message. Et voilà ce que ce passage nous invite à faire, c'est d'ouvrir notre cœur pour être attentif à ce message extraordinaire que Jésus nous donne et qu'il transmet à ses disciples. Il nous appelle à changer d'attitude, à changer de comportement, à considérer que nous avons besoin de Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu, pour vivre une vie différente. Alors, Christ lui-même n'a pas changé lorsqu'il a débuté son ministère à 30 ans et qu'il a quitté son métier de charpentier. Son grand changement dans sa vie s'est produit quand ? En fait, le grand changement que Jésus a vécu, c'est lorsqu'il a quitté la gloire divine et qu'il est venu sur terre pour s'incarner comme un simple homme et vivre en chair et en os sur terre de la naissance à sa mort. Mais plus que ce changement-là, son plus grand changement, il l'a vécu lorsqu'il est mort à la croix. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il est mort à la croix, la relation qu'il avait avec Dieu s'est brisée, le soutien de son Père s'est brisé et il s'est retrouvé sans famille. Il s'est retrouvé sans Père. Il s'est retrouvé sans personne pour répondre à son cri. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est mort donc à la croix pour que nous puissions, à notre tour, faire partie de la famille de Dieu, devenir enfants de Dieu, pour nous prouver son amour et pour nous montrer la voie que le changement est possible. Alors j'aimerais vous dire, à l'image du slogan de Barack Obama lors de sa première élection comme président américain, Jésus voudrait nous dire « Yes, we can ». Oui, nous pouvons changer. Mais le slogan de Jésus n'est pas un slogan politique. Il n'a pas d'objectif purement terrestre. Le slogan de Jésus vient toucher notre cœur. Et ce « Yes, we can » de Jésus est là parce qu'il veut nous transformer et que nous ayons une vie différente de celle que nous aurions sans lui. Dans ce livre, « La croix et le poignard », Nicky Cruz a vécu une transformation telle que du jour au lendemain, il a quitté son gang et qu'il a même pris le risque de retourner dans ce gang pour aller annoncer l'évangile à ses anciens membres de gang. Et le nouveau président du gang, qu'il avait remplacé, à son tour a donné sa vie à Jésus. Et ça, c'est une transformation qui me fait envie et qui me donne envie de vivre en tant que chrétien. Alors oui, nous pouvons être admiratifs de Christ, considérer que c'est un grand homme, mais vient aussi le temps pour nous de lui donner la possibilité de transformer notre vie. Car c'est bien ce que Christ veut faire sur notre vie, nous transformer.